T'enregistres au moins.
Bon, mon quartier, j'aime bien le quartier. C'est pourquoi? Parce que ça me fait penser à mon pays.
Et dans le fond, c'est quoi être féministe?
Le danger d'une religion, c'est de croire qu'elle a la vérité.
Et à ce que je vois, vous êtes toujours dans la saucisse.
Yo no comprendo todas las palabras, solo pocas.
Est-ce que je peux prendre en photo, Georgette?
Oh oui, sur mon meilleur profil.
Avec plaisir.
Et madame, on passe où là en fait?
Bienvenue sur Mediaphone, l'émission citoyenne de Média Animation.
Cette première table ronde va traiter de fiction, de publicité, de divertissement. La représentation du handicap dans ces médias, dans ces différents médiums, va souvent l'être de façon clichée et stéréotypée, avec deux grands stéréotypes, plutôt du dépassement du handicap, avec cette vision du héros qui transcende son handicap, et de l'autre, une vision plutôt plus misérabiliste, infantilisante, ou en tout cas où le handicap est plutôt un poids. Et donc l'idée ici, c'est de voir de représentations en tout cas plus nuancées, plus diversifiées sur le handicap.
Mediaphone !
Alors, je vais commencer par Luc Bolland. Donc vous êtes directeur artistique de l'ASBL EOP, et vous organisez le Extraordinary Film Festival, qui est un festival qui se concentre sur des films avec pour thématique le handicap et la diversité. C'est un festival qui existe depuis 2010 et qui a lieu tous les deux ans. Qu'est-ce qui vous a motivé à mettre sur pied ce festival?
J'étais moi-même scénariste et réalisateur. J'ai réalisé un documentaire qui s'appelle Les Tralous en 2006, et j'ai découvert l'existence de certains de ces festivals uniquement axés sur le thème du handicap. Et j'ai vu des films absolument époustouflants, avec la réflexion immédiate de me dire, étant donné l'encombrement des tuyaux, ces films n'arriveront jamais en Belgique. Et donc, encouragé par une organisatrice d'un de ces festivals, elle m'a poussé à lancer ce projet en Belgique. J'ai fait une édition zéro, j'ai invité les pouvoirs publics, j'ai dit qui me suit dans l'aventure. Et c'est comme ça que le festival a démarré.
Merci beaucoup.
Hey, oh,
magnifique.
Écoutez, ne pas respecter les droits des enfants handicapés, c'est un délit, un crime contre l'humanité. Ne pas respecter les droits des adultes handicapés, c'est un délit, un crime contre l'humanité.
Je représente la France, je représente la souffrance, je représente la précarité des personnes handicapées. Je représente le changement du maillot bleu au gilet jaune, nous sommes passés. Maman guerrière, papa guerrier, sœurs et frères des familles concernées, nous ne nous laisserons plus faire. Et face à l'injustice, nous garderons le poing levé.
Ne pas respecter les droits des enfants handicapés, c'est un délit, un crime contre l'humanité. Ne pas respecter les droits des adultes handicapés, c'est un délit, un crime contre l'humanité.
Nous ne sommes rien tant que nous ne considérons pas les autres avec respect. Nous ne sommes rien tant que nous ne considérons pas les autres avec respect. Le temps passe. La MDPH n'a pas notifié ce que la CAF n'a pas payé. Le trésor public va l'encaisser. Noyé sous une tonne de paperasse, et toujours pas plus avancé. Pas de place, pas de budget, le droit à l'école est bafoué. Ton AVS s'est pas pointé. Le téléphone pleure, Sophie Cluzel nous a bernés. Car ce n'est pas en 48 heures, et suite à ton appel, que la situation s'est arrangée.
Ne pas respecter les droits des enfants handicapés, c'est un délit, un crime contre l'humanité. Ne pas respecter les droits des adultes handicapés, c'est un délit, un crime contre l'humanité. Ne pas respecter les droits des enfants handicapés, c'est un délit, un crime contre l'humanité. Ne pas respecter les droits des adultes handicapés, c'est un délit, un crime contre l'humanité.
Nous ne sommes rien tant que nous ne considérons pas les autres avec respect. Nous ne sommes rien tant que nous ne considérons pas les autres avec respect.
Yeah.
Chaque pas vers l'avant est une victoire incommensurable. Le combat est permanent, pesant de tout son poids, émouvant sont les sables. Mais la vie nous guidons, suspendus à l'amour, dans ce voyage improbable. Le courage des mamans, prisonnières de la tour, leur trésor inépuisable. Dans un monde où l'argent, tel le canot de sauvetage, reste indispensable. Participantes au changement, lanceuses d'alerte tour à tour, dans un monde impitoyable. En marche ou crève, président, un aller sans retour t'est offert par les contribuables. Les droits de nos enfants, je le dis sans détour, n'ont jamais été négociables.
Médiaphone !
Dans la direction de casting, ce qui est intéressant, c'est les propositions. Pour moi, ça fait un peu pour le moment Benetton, beaucoup. On dit, il nous faut un noir, un arabe, un asiatique, quelqu'un en chaise roulante. On essaie de mettre un peu de crème fraîche sur tout ça, alors que la réalité, c'est donner la parole. À qui on permet de passer, que ce soit la RTB. La RTB, c'est devenu catastrophique, je suis désolée. Au niveau représentation, mais c'est devenu une horreur. Homme, blanc, jeune, il n'y a rien qui passe. Je suis de plus en plus pour les quotas. Qu'on arrête avec cette histoire de compétences et qu'on mette les quotas. Si on veut, on peut. C'est plutôt l'inverse. C'est, si on peut, on veut. On ne va pas aller faire du Benetton et se dire tout à la fin... Ah, on va prendre 2 jours de tournage pour quelqu'un qui a un handicap. On voit plein de films sociaux, la représentation est toujours misérabiliste quand on parle de la minorité, quelle qu'elle soit. Des gens étrangers ou handicapés, ou... c'est toujours misérabiliste jusqu'à présent. Bah, il suffit de regarder les films des Frères Dardenne, des Blancs qui parlent des étrangers. Et on va dire les autres, ils n'existent pas. Combien de fois on me dit dans les films de fiction... Oui, mais il n'y a pas beaucoup d'Arabes, il n'y a pas beaucoup de Noirs, il n'y a pas beaucoup... C'est faux, je ne vois pas...
Bonjour, merci beaucoup pour cette première intervention. J'aimerais juste réagir. Je m'appelle Robin Guyot, du coup, moi je travaille aussi dans un cadre universitaire sur la représentation du handicap dans les médias. Et mon travail, justement, traite de la série Vestiaire, qui est passée, il y a eu un extrait qui a été montré juste ici. J'aimerais dire que c'est un contre-exemple qui passe donc sur France 2, hein, aux heures de prime time, depuis 13 ans même. Et du coup, elle a dans son processus de production des personnes directement concernées par une déficience, à savoir que sur les 9 scénaristes de la saison 13, il y en a 2 qui sont porteurs d'une déficience, ce sont les créateurs de cette série, et ce sont eux qui justement ont un rôle aussi de coordination sur l'écriture du scénario. Et donc ça amène aussi, du moins c'est ce qui ressort pour l'instant, à créer un contre-discours à travers notamment l'humour, pouvoir se moquer d'eux-mêmes, l'autodérision, la figure de l'anti-héros, à travers effectivement un humour qui est particulièrement révélateur. Et ces personnes-là sont aussi donc, coordinateurs des scénarios, et l'un d'entre eux est également réalisateur après. C'est un des 3 réalisateurs de cette saison, et la plupart des personnes... qui sont les acteurs, les comédiens, les comédiennes sont directement concernés par une déficience. Donc c'est un petit peu un contre-exemple, mais qui vient aussi alimenter avec ses aspects négatifs aussi le discours. Mais je pense que c'est aussi intéressant de pouvoir indiquer qu'il y a des choses qui sont faites, qui durent depuis longtemps, mais qui sont encore aussi, c'est un peu le résultat, un peu encore méconnu. Donc voilà, merci beaucoup.
Merci pour votre intervention.
Donc en fait, par rapport à l'introduction qu'il faut la représentation des personnes handicapées pour en parler, moi je vois 4 personnes valides qui parlent à notre place, quoi. Et ça, c'est toujours la même chose. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de légitimité à parler, mais après, on se dit, mais adressez-vous aux gens. Et alors on parle aussi de Cap 48. Moi, j'aurais beaucoup de choses à dire sur Cap 48 et leur campagne de sensibilisation, parce qu'alors, dans le genre validisme, alors là, c'est le pompon. Tous les ans, je me dis, ils ne vont pas savoir faire pire. Eh bien, si. Alors, donc voilà, si quelqu'un veut me questionner sur ce que je pense de Cap 48, je le ferai aussi.
Peut-être juste pour répondre pour les images, l'idée, ben, d'un côté ça marche, c'est de faire réagir aussi, de voir ce que ça évoque chez les personnes, comment ces images viennent influencer la perception du grand public finalement autour du handicap. Et bah, d'ailleurs, j'avais une autre question. Est-ce que les récits fictionnels peuvent influencer finalement notre perception du handicap? Est-ce qu'ils pourraient avoir un rôle dans, dans ce brisage finalement des stéréotypes qu'on peut avoir sur le handicap?
La fiction n'est pas le reflet de la société, elle est le reflet des gens qui font de la fiction. Et c'est une responsabilité, justement, c'est de la fiction. On a un pouvoir de représentation qui n'est pas celui du réel, mais qui est celui de changer l'imaginaire collectif. Et celui-là, c'est une vraie responsabilité. Et ça s'est déjà démontré dans d'autres débats, comme le mariage pour tous et plus belle la vie. Ça a pu changer l'opinion en France. On sait que c'est possible.
Je rebondis aussi, juste très brièvement, on a fait une table ronde à la dernière édition du TEF sur ce problème de la représentation de la personne handicapée dans la fiction. Et je vais juste citer la réponse d'un producteur. Je lui posais la question, je dis, mais pourquoi est-ce qu'effectivement une silhouette, un second rôle ou même de la figuration ne pourrait pas être une personne porteuse de handicap? Sa réponse a été laconique, ça va perturber le spectateur. Je pense que tout est dit.
Médiaphone.
Bonjour, je m'appelle Émilie, je travaille à la RTBF. C'est une question slash réflexion, mais je sais qu'il y a pas mal de réflexions, en tout cas dans le milieu queer, sur par rapport à la fiction, d'arrêter justement qu'un personnage queer, forcément sa trame narrative, ce soit sa queerness, son coming out, etc. Du coup, est-ce que c'est la même chose par rapport aux personnes en situation de handicap? Parce que j'ai l'impression que dans les extraits de films qu'on a vus, c'est justement beaucoup, ou en fait c'est la seule trame narrative des personnages en situation de handicap. Il y a toujours cette problématique, il y a toujours, on revient toujours à ça. Pareil dans d'autres fictions avec des personnes grosses, par exemple, où forcément il y aura l'épisode dédié. Mais j'ai l'impression qu'il y a discussion autour de ça, que tout le monde n'est pas d'accord. Et donc, je serais intéressée d'entendre vos avis là-dessus et de la salle aussi.
C'est clair qu'en termes de fiction, le handicap doit être le sujet. Ça doit concerner le personnage principal ou les personnages satellites. Sinon, il n'y a pas de présence de handicap dans n'importe quelle autre fiction. C'est incroyable de constater qu'au niveau de l'information, la présence des personnes handicapées dans l'étude du CSA, c'est systématiquement quelqu'un qui est là pour son handicap. On ne va jamais prendre une conteuse en fauteuil qui va parler de ses compétences de conteuse dans un média, ou quelqu'un qui est philosophe et qui est aveugle, ou que sais-je, ou ce genre de choses. À part Alexandre Jolien, je ne connais pas beaucoup de personnes qui sont médiatisées et qui ont de la place porteuse de handicap pour autre chose que leur handicap.
Dans la série Fatal Attraction, Attraction. Très belle série. Bien, nous avons un avocat handicapé et qui a un gros rôle d'ailleurs.
Oui, donc ça commence à arriver. Et on a une question là-bas.
Bonjour. Donc moi je suis chargée de communication et je coordonne notamment un magazine. Le cinéma est un médium très visuel. Et moi ce qui m'a marqué, pour revenir aux images qui ont été représentées, les films qui ont été présentés, on n'est que, sauf erreur de ma part, sur des handicaps visuels. Et du coup, déjà les handicaps visibles sont peu représentés, mais moi je me posais la question aussi de comment représenter finalement des handicaps invisibles qui représentent une très très grande majorité des handicaps. Merci.
Mais déjà, il faudrait qu'on ait des scénaristes qui soient sensibilisés en fait à cette question et qui du coup viennent pas à un moment donné se dire on va cocher une case, mais qui vont en fait parler de ça parce qu'ils sont concernés. Ce ne fait pas partie de mon quotidien, ni même du quotidien des gens avec lesquels je travaille en équipe, ni même des personnes qui prennent des décisions à cet endroit-là. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut revenir en permanence en fait pour ne pas l'oublier.
Je voulais juste répondre à ça, c'est que parfois en casting, franchement, on arrive à on présente des talents au-delà de handicap, aux couleurs ou quoi, et que ce soit le réalisateur ou les producteurs, quand c'est vrai, ça ouvre des portes et quand c'est tellement beau, on arrive à convaincre des gens.
Thank you.
the black coat on, running from a bad home, with some cat inside. Where did you find her? Among the neon lights that haunt the streets outside. She says, stay with me, beautiful girl. Beautiful girl, stay with me. Do you wanna go home? From doorway to doorway, street corner to corner, the neon ghosts in the city. And she says, stay with me. Stay with me. Stay with me. Stay with me.
Mégaphone!
Alors, d'abord, je voudrais juste réagir à ça. Moi, j'ai vraiment le sentiment, parce que j'ai déjà à peu près vu 4000 films sous le handicap venant des quatre coins du monde depuis 2010. Donc, je ne me prétends pas avoir une expertise, mais c'est très intéressant de voir justement comment le handicap est traité dans différents pays. Et j'ai vraiment l'impression que le handicap est là où était l'homosexualité dans l'audiovisuel dans les années 70. On en est là. Il y a un frémissement, il y a quelque chose qui commence enfin à évoluer. On commence à dépasser la cage aux folles, si vous comprenez ce que je veux dire par rapport à ça, il y a un chemin. Alors par rapport au film, justement, nous, on a une volonté absolue dans notre festival d'allier le fond et la forme. Et on ne pose aucun jugement justement sur le fait qu'un rôle soit joué par un artiste porteur de handicap, un comédien porteur de handicap ou pas. Si un comédien valide parvient à incarner un rôle à la perfection d'une personne porteuse de handicap, c'est son métier. C'est ça, être acteur, c'est rentrer dans un personnage. Je cite juste par exemple un film qui s'appelle Son visage, qui est un court-métrage français avec Jérémy Régnier. Et Jérémy joue le rôle d'un aveugle. Je connais bien la cécité vu mon bonhomme. Son interprétation est absolument remarquable en tout point, jusqu'au petit stéréotype qu'une personne aveugle va avoir par rapport à la recherche d'un objet ou ce genre de choses, ou le fait de placer toujours les choses au même endroit pour les retrouver. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais donc, au niveau du festival, on prend tout ce qui, pour nous, allie l'art cinématographique et le sujet. Et c'est clair que souvent, les sujets traitent du handicap. Et je donne juste un petit exemple, et c'est là où on se dit, bon, ben, il y a de la créativité, et la créativité, elle peut être absolument colossale. Je cite deux petits exemples très brefs. Un court-métrage australien, co-réalisé par une personne tétraplégique, donc emprisonnée dans son corps. Plan séquence au-dessus de son lit, et il est agressé par un moustique. Et il est obligé de prendre une baguette avec sa bouche, et essayer de tuer ce moustique avec sa baguette. C'est absolument... Mais, truculent pendant 4-5 minutes, il tue l'insecte. Générique, à ce moment-là, on entend une corde d'insectes se rapprocher. C'est de l'humour noir, c'est de l'humour, c'est une personne concernée qui a décidé de faire ce film. Et quelque part, derrière ça, il y a un message, se dit, mais mon Dieu, avec ce simple exemple de moustique, il pose la question de qu'est-ce que c'est être enfermé dans son corps et d'être totalement dépendant d'autrui. Je prends encore un autre exemple, un film kirghik qui nous est arrivé, petit court-métrage de 3 minutes, incroyable. Un couple de sourds qui prépare l'anniversaire de leur petite fille de 6-7 ans. Et c'est la préparation. La maman prépare le gâteau et tout. Elle dresse la table. La petite fille, elle fait des petits dessins sur une petite table dans son coin. Rentre le mari, mort bourré, qui a oublié d'acheter le cadeau. Et on se retrouve à la scène de l'anniversaire. La gamine souffle son gâteau. Et les deux parents commencent à s'engueuler en langue des signes, en disant « t'es qu'un poivreau, et ceci, et cela, etc. etc. » Et la gamine s'emmerde à son anniversaire en disant « mais c'est pas possible et tout. » Le film se clôture, elle dit, elle en a ras-le-bol, qu'est-ce qu'elle fait ? « Ben oui, c'est clair, si on veut faire taire des sourds, ben, on éteint la lumière, parce que la langue des signes, on a besoin de voir pour ça. » Donc voilà, c'est pour vous donner un peu le ton des choses.
Ben moi, je veux bien. Donc, moi, je suis née avec un handicap physique. Et une des questions que je me pose beaucoup dernièrement, c'est quelle valeur on a où on se situe dans l'échelle des valeurs par rapport aux personnes valides. Et c'est une question que je pense qui est à la base de toute cette réflexion avant de la représentation, c'est de dire, en fait, dans le fond, vous nous considérez comment, vous qui êtes valide? Je crois que c'est super important de faire face à ça. En tout cas, moi, je me suis considérée comme moindre pendant longtemps et ce n'est pas encore gagné. Donc il y a ça. Au niveau des quotas, moi, j'étais... on est venu me chercher pour des spectacles de danse inclusifs où il y avait un vieux, un métis et moi. Et du coup, pendant toute la création, on se dit, pourquoi je suis là? Est-ce que je suis là parce qu'on apprécie mes qualités d'artiste, ou est-ce que je suis là parce que je suis juste l'handic de service qui permet d'avoir le chiffre? Donc, pour moi, il y a un truc qui est un peu... Voilà. En même temps, les écoles d'art, elles sont difficilement accessibles. Moi, j'ai été en Angleterre, justement, parce que j'ai qu'un bras en moins, mais quelqu'un en chaise roulante n'aurait jamais accès à une école de danse. Donc, il y a ça. Quand j'entends parler du festival, je me dis, c'est super qu'il y ait un festival qui monte des films sur le handicap. Mais en même temps, je me dis, encore une fois, c'est de la ghettoisation.
Il ne devrait pas exister.
Donc, ouais, c'est ça, il ne devrait pas exister. En fait, moi, ce que j'ai envie, c'est plus de mixité. Et puis qu'il faut se rendre compte que notre imaginaire à nous, personnes handicapées, il est vachement impacté par les représentations. Et donc, on dit, on veut vous voir plus. Mais comment est-ce qu'on peut nous prétendre à vouloir être plus là alors qu'en fait, on ne s'est jamais vu en face? Moi, j'ai pas d'enfant, par exemple, et je sais que le handicap m'a impacté de cette manière-là. Et hier, j'ai vu une mère avec le même handicap que moi dans le métro et j'ai fait « Ah putain, chouette !» Mais j'ai jamais vu ça avant. Et donc, je pense qu'il y a vraiment une question de base à se mettre, parce que c'est comme ici, j'entends tout ce qui a été fait, c'est super, il y a une réflexion, je me dis « Ok, ça bouge », mais elle a été menée par des valides qui font un peu comme des colons. Enfin, c'est la sensation que j'ai eue de dire on va faire des groupes de réflexion où on invite des personnes handicapées. Et en fait, je dis, mais là, encore une fois, on n'est pas à égalité. Et du coup, moi, ça me choque. Je veux dire, le nombre de fois où j'ai participé à des événements où on parlait du handicap, moi, j'ai quand même écrit un spectacle là-dessus que j'ai joué. J'ai jamais été sollicité à discuter. J'ai un cerveau, je sais réfléchir, je suis pas débile. Et même les gens qu'on va considérer débiles, finalement, ils ont une autre richesse. Quand j'entends parler de déficience, là, je suis choquée, en fait. Encore une fois, on se dit, mais réfléchissez jusqu'au bout, quoi. Quelle valeur vous nous donnez? Allons voir ça, parce que tant qu'on n'a pas vu ça, on peut rien changer. Donc les quotas, les machins, c'est beau, mais ça va pas résoudre tout.
Right on time.
Que dans le secteur du handicap, il y a des silos. Les sourds sont avec les sourds, les aveugles sont avec les aveugles, les PMR sont avec les PMR, les déficients mentaux sont avec les déficients mentaux. Et il y a très peu de communication entre eux. Et quand tu dis, c'est extrêmement juste ce que tu dis, tu n'as pas envie d'être l'handicapé de service, c'est avant tout envie d'être pris pour ce que tu es. Mais l'OMS définit le handicap selon trois critères. Physique, mental, social. La dimension sociale, et moi je vous rajoute d'une manière personnelle le handicap affectif, et vous avez tous les maux de l'être humain en dehors des accidents de la vie. Il faut vraiment que dans tous les organes, les choses évoluent, et parfois il faut un petit peu forcer la main. Il suffit de voir la représentation des femmes dans la politique, les choses sont enfin en train de changer, il a fallu une loi qui était posée, je crois qu'il y a plus de 10 ans, pour qu'enfin maintenant il y ait une parité où les femmes soient représentées. C'est dommage d'en arriver là.
Pour qu'on arrive à ça, au lieu de devoir cocher des cases, il faudrait qu'il y ait des personnes dans les institutions, dans les pouvoirs décisionnaires qui acceptent de renoncer à leurs privilèges. Et ça, c'est pas gagné.
Les quotas, on en fait l'expérience et l'exercice dans d'autres sphères de la vie. On peut parler de l'emploi, c'est celui qui va le parler, je pense, au plus grand nombre d'entre nous. Il y a des quotas d'embauche dans les services publics, donc des personnes en situation de handicap. Alors, il y a deux problèmes. Le premier, c'est que le quota n'est pas rempli. Le deuxième, c'est que le quota n'est pas sanctionné quand il n'est pas rempli. Donc, en fait, un quota, ça donne un indicateur, ça donne une invitation à. Mais en fait, si tu le fais pas, bah, ma foi. Mais quand même, c'est pas cool, mais ma foi. Donc, la question du quota, ça reste quand même pour moi un pansement sur une blessure ouverte et purulente. Et quelque part, ça peut jouer le réflexe de forcer la réflexion, de dire attention, on ne ferait pas attention à notre diversité, notamment dans nos salariés et dans nos personnels, avec toujours ce risque de est-ce que je suis l'handicapé de service, il y a quelqu'un qui en faisait l'écho, est-ce que je suis là pour le quota ou pour mes compétences, ça ouvre d'autres questions. Et donc avant d'annoncer le quota comme étant une solution qui est un peu clé sur porte, il faut se dire aussi que pour atteindre le quota, ça implique que par exemple une personne qui a mobilité réduite a pu avoir un parcours scolaire tout à fait classique, en ayant fait des choix scolaires qui l'amènent par exemple à pouvoir exercer un emploi pour lequel, oh spoiler, il remplirait le quota, mais également elle a toutes les compétences pour employer ce poste-là. Donc c'est quand même un biais. Moi j'aime bien parler d'aude à la nuance dans le secteur du handicap, et je pense que sur la question des quotas c'est fondamental, parce que c'est à la fois une solution, mais c'est un indicateur, mais ça permet aussi, et ça maintient une forme de validisme, qui est de dire, bah, ok, on est dans les quotas, ciao. En fait, c'est pas suffisant, ce sera jamais suffisant, tant que les quotas seront encore là. Les quotas, et je finirai par ça, ça permet aussi à des personnes qui n'ont pas envie de réfléchir à ça de manière plus approfondie et plus nuancée, de se dire, ok, il me faut quelqu'un pour mon quota. Et alors, cette personne, elle va travailler avec quelqu'un en situation de handicap en se disant, bah, c'est pour mon quota, quoi. Et donc, quelle est la place et la valeur de cette personne? On parlait de la valeur de chacun et chacune. C'est nuancé. Donc évidemment, ce n'est pas transposable à 100% à la fiction, mais j'ai quand même l'impression qu'on peut faire des ponts entre ces deux raisonnements. Voilà, merci.
I don't need no doctor, 'cause I know what's ailing me. I don't need no doctor, no, no, 'cause I know what's ailing me. I've been too long away from a baby. I don't need no doctor.
But all I need is her tenderness. Put me on a critical list. When all I need is a her sweet kiss. He gave me a medicated lotion, but it didn't soothe.
It didn't soothe
my emotion.
I don't need no doctor. I don't need no doctor.
I don't need no doctor. All my hope to live is gone.
Il y a un média où les personnes handicapées ont pris une place importante et se sont appropriées, c'est les réseaux sociaux. Il y a énormément aujourd'hui de personnes porteuses de handicap qui tiennent qui un blog, qui un compte Instagram, etc. Je prends l'exemple de Sarah Talbi, qui est une Belge qui n'a pas de bras et qui est maman et qui élève son enfant et qui publie, qui partage toute la manière dont elle s'en sort avec ses pieds pour se... Oui, dont elle s'en sort pour élever son enfant. Et elle a plus de 250 000 ou 200 000 followers, etc. Et je pense que ça va être des petites touches comme ça qu'on fait aussi évoluer les choses. Moi, je le fais avec mon fils d'une autre manière, mais il y a plein de gens qui œuvrent comme ça. Et je voudrais en revenir toujours à la question des quotas. Et je rejoins ce que tu dis est tout à fait juste. Mais c'est dire le travail qu'il y a encore à faire. Quand tu racontes ton expérience, c'est effrayant. Mais au-delà de ça, je dis de nouveau, je prends le modèle de la France avec les quotas. Si une entreprise, donc il faut être coercitif, si une entreprise ne respecte pas ses quotas de 3% ou de 5%, je ne sais plus, de personnes porteuses de handicap, l'argent doit être investi à des fins de soutien au secteur du handicap. Et il y a des grosses entreprises, et comme par hasard, si vous regardez le paysage des grosses entreprises françaises, Total et autres, Énergie et autres, comme par hasard, ils ont des fondations. Ils ont plein de fondations en France. C'est incroyable le nombre de grosses multinationales qui ont des fondations. Pourquoi ? Pour blanchir l'argent des personnes handicapées qu'elles n'ont pas engagées. On en est là aussi. Donc c'est dire comme les choses peuvent être aussi pervers, mais d'un autre côté, ces fondations viennent en aide et apportent des soutiens énormes à d'autres associations qui œuvrent dans le secteur du handicap. Bref, rien n'est blanc, rien n'est noir à ce niveau-là, mais c'est... Enfin voilà, je pense qu'il y a un travail colossal à faire à ce niveau-là.
Bonjour, je m'appelle Océane et je connais et j'admire Khadija. J'aimerais moi aussi devenir réalisatrice. Et quel est le chemin que je dois parcourir pour devenir moi aussi réalisatrice?
Tu veux répondre? Enfin, moi, ce que je peux te conseiller, c'est déjà de t'exercer. Raconte-toi des petites histoires avec une caméra, prends des amis autour de toi et exerce-toi à raconter des histoires. Ça, c'est déjà une première chose. Deuxième chose, fais-toi aider. Il y a par exemple un atelier qui s'appelle l'atelier des jeunes cinéastes, la JC, à Bruxelles, qui est un atelier qui permet à des gens qui n'ont pas de formation, éventuellement d'être épaulés, d'être accompagnés pour réaliser des films. Et lance-toi, tu as quelque chose à raconter, alors vas-y, raconte-le.
Ben moi j'ai une question, parce que je suis comédienne et puis j'entends, si un comédien valide est capable d'interpréter un personnage handicapé, pourquoi pas? Et si une personne dite invalide est capable d'incarner quelqu'un de normal, pourquoi pas, en fait, moi j'ai envie de dire.
Le gros problème, c'est que l'audiovisuel coûte extrêmement cher. Et que donc, en termes de... Je ne prends pas leur défense de la production et des coproductions, mais c'est clair qu'avoir quelqu'un à mobilité réduite sur un plateau pour qu'il ait déjà été sur un plateau de tournage... C'est un cauchemar avec les câbles des projecteurs, les câbles de ceci, les câbles de cela, etc., etc. Je le vois déjà rien que sur scène pour mon bonhomme. Quand on fait un concert avec son band, il y a des câbles partout. Je dois le guider parce que c'est l'horreur. Donc c'est déjà un aspect. Maintenant, pour répondre à la chose, par exemple, il y a en France une société qui s'appelle l'Agence Cristal qui fait du placement, qui est une agence de casting qui essaie de placer des personnes porteuses de handicap dans des films. C'est eux. Et à côté de ça, ils ont aussi une autre agence qui est une agence qui fait l'équivalent du Tax Shelter. C'est-à-dire qu'en fait, et ça dépasse la diversité au niveau du handicap, c'est toutes les diversités, donc ça peut être les LGBT et tout ce qu'on veut, ils sont une agence qui va donner des fonds à des projets à partir du moment où, justement, ils vont proposer dans leur scénario une part de diversité, etc. Donc, c'est tout un système d'incitants que je trouve extrêmement, extrêmement intéressant. Alors, la question de, effectivement, du creeping, faut-il qu'une personne porteuse de handicap joue un rôle attitré par rapport à une personne à mobilité réduite ou que sais-je, voilà, là, on se retrouve dans le problème de l'industrie du cinéma. C'est clair qu'Intouchable n'aurait jamais fait 20 millions d'entrées si ce n'était pas Cluzet qui tenait le rôle. Parce que Cluzet, c'est dans le tableau du Bankable, c'est autant de millions d'entrées garanties. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Et je donne juste un autre exemple par rapport à ça. Au dernier édition du festival, on a proposé un long métrage danois qui s'appelle The Blind Man Who Didn't Want to See Titanic. Ce film, c'est un bijou qui a eu un des prix du public à la Mostra de Venise. C'est incroyable. Ça raconte l'histoire de quelqu'un qui, suite au diabète insipide, est devenu aveugle et PMR. Et donc, il est enfermé chez lui et il décide à un moment donné de sortir de chez lui pour aller retrouver sa belle qu'il a rencontrée sur Internet. Et il part en voyage et ça devient un thriller terrible parce qu'il se retrouve agressé, ce genre de choses. Ce film est filmé avec une profondeur de champ ridicule qui fait que nous, spectateurs, et en gros plan, de sorte que nous, spectateurs, on est plongé dans sa réalité durant tout son cheminement, tout son déplacement. Ce film est absolument somptueux. Le jury était unanime, il a eu le grand prix du festival. Ce film n'a jamais été distribué. Pourquoi ? Il aurait fallu inviter Karine de Padua, qui est une comédienne belge de petite taille, qui bosse pas mal. Et un jour, j'avais une discussion avec elle. Elle dit, mais oui, je parviens à avoir du boulot grâce au Théâtre Royal du Parc, qui l'engage souvent, etc. Bon, effectivement, ça va être pour la Peter Pan. Et donc, sa petite taille va bien jouer dans la distribution, ce genre de choses. Elle dit, mais moi, je rêve de jouer Roméo et Juliette, le rôle de Juliette. Et pourquoi pas ? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on ne montrait pas en scène Roméo et Juliette avec une Juliette qui est de petite taille ? Est-ce que les personnes porteuses de handicap ne vivent pas l'amour, n'ont pas le droit à l'amour et ce genre de choses ? Est-ce que justement, ça ne donne pas un regard et une autre grille d'analyse sur nos propres représentations de l'amour, etc. ? Je me tais.
Ceci dit, juste concrètement, moi, vous pouvez vous inscrire hein, chez moi. Franchement, moi, je dirais, il y a n'hésitez pas, et même chez les directeurs de casting, quand Manon dit qu'il y a une part individuelle, c'est aussi ça. C'est bête, mais inscrivez-vous, c'est aussi un moment se dépasser, c'est pour tous, hein, de se dire, tiens, oui, je peux, donc au moins essayer. Si on n'essaye pas, c'est compliqué. Par exemple, quand on doit chercher des gens, ce n'est pas toujours évident. Je sais qu'à un moment, pour une publicité, il fallait quelqu'un en chaise roulante, un homme, et franchement, quand on faisait juste la recherche classique, c'était pas évident. Il a vraiment fallu aller dans les associations et tout ça. Mais ça prenait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps qu'on n'a pas dans les recherches de publicité. C'est aussi con que ça. Donc, inscrivez-vous aussi sur les sites des comédiens ou les sites de figuration. Enfin, ce que vous avez envie, c'est là la part individuelle à faire.
Yeah. mots sont importants. Et y a ce mot déficience que j'ai entendu plusieurs fois dans la salle de personnes qui parlent, qui se disent expertes ou qui ont une certaine expertise. Et moi, le mot déficience, il me gêne profondément. Si des personnes qui sont concernées et qui se sentent, qui ont une affinité et qui veulent défendre cette position digne de personnes en porteuse de handicap, comment on peut utiliser le terme déficience ? Pour moi, le terme déficience, il est ultra... Il minorise la personne, il veut dire qu'elle est inférieure. Donc en fait, finalement, ce terme-là, il appartient au validisme. Donc je suis très surprise de l'avoir entendu derrière moi et de l'avoir entendu de la part de quelqu'un du panel, parce que finalement, pour moi, pour déconstruire ces narratives, il faut réfléchir aux mots qu'on utilise. Et ça ne veut pas dire que tout ce qui a été dit n'est pas valide. Hein. Mais voilà, je pense que déjà, réfléchir aux mots qu'on utilise et décider d'arrêter d'en utiliser certains, c'est peut-être comme ça qu'on commence à changer les narratives. Voilà. Merci.
La vraie question, c'est quelle société on veut ? Est-ce qu'on veut vivre ensemble ? Il me semble que la RTBF est aussi subventionnée. On a aussi envoyé des mails pour des stages, etc. C'est systématiquement refusé. Donc à un moment donné, si on ne sait pas vivre ensemble, on ne peut pas être représenté dans les médias non plus. Parce qu'à la base, déjà, on sent de l'anxiété, de la peur, de la méconnaissance, et on nous parle de budget. Alors nous, on ne veut pas l'entendre parce qu'on propose des contrats à 1 euro de l'heure parfois, grâce aux aides. Est-ce que dans les sociétés qui se disent avec des problèmes de budget, etc., on ne trouve pas des contrats à 1 euro de l'heure pour des élèves qui veulent juste trouver un job, être autonome, indépendant, vivre avec les autres? Et en plus, c'est du win-win, parce que quand on connaît les personnes et tous les outils qu'ils ont mis en place pour pouvoir s'insérer, nous, on trouve ça vraiment triste, parce que souvent, on est face à des équipes qui ont tout simplement peur d'accueillir des personnes en situation de handicap. Par contre, on peut investir 300 000 euros pour mettre des rampes dans une entreprise où on n'a aucune personne en chaise roulante. Donc on a investi 300 000 euros dans ça pour se donner bonne conscience, mais on n'a jamais rencontré aucune personne en chaise roulante dans ces administrations-là. Donc voilà, on est face à des incohérences. On va investir des sommes astronomiques pour l'accessibilité des travailleurs, mais on n'en a pas. Par contre, engager une personne, il faut faire des petits aménagements. Je parle bien encore de petits aménagements. Ça, c'est compliqué. Donc, en fait, c'est un problème politique déjà, parce que les politiques ne prennent pas leurs responsabilités, parce qu'il y a des quotas, parce qu'on parlait de quotas, mais il n'y a pas... Si le quota n'est pas rempli, c'est cool, on continue à bosser. Donc, il n'y a aucun souci avec ça. Et aussi, c'est un problème de sensibilisation. Ça, c'est le vrai point, je pense, en termes de médias. C'est sensibiliser pour enlever ses peurs. Parce que nous, on entend toujours ça. Oh, vous comprenez bien, mon équipe, ils sont déjà sous pression de devoir accompagner quelqu'un en situation de handicap. Ça fait vraiment peur. Et je pense qu'une des solutions, ce serait la sensibilisation. Parce que notre public, il est complètement invisibilisé. On a rencontré des politiques qui ne connaissent pas notre public. Qui ne connaissent même pas le système d'enseignement en Belgique, qui ne connaissent pas les types et les formes, et qui sont ministres de l'égalité des chances, ministres de l'handicap. C'est vraiment grave, en fait, la méconnaissance, l'invisibilisation des publics en situation de handicap. Alors nous, les médias, ça semble très, très loin et déjà très compliqué, parce que déjà, à toute petite échelle, c'est compliqué. Donc commençons par la base, le vivre ensemble. Accueillons, travaillons ensemble. Il faut pouvoir les accueillir dans des administrations communales. Je ne parle même pas des sociétés privées où il y a un enjeu économique, etc. Je parle vraiment des institutions qui sont financées par le public parce qu'ils payent leurs impôts, n'oublions pas, et qui participent à la collectivité. Donc c'est normal qu'ils aient une place dans la société.
Bonjour, donc moi je m'appelle Manon Coulz, je suis coordinatrice de SENCA, qui est une association donc, qui défend les personnes en situation de handicap, de maladies graves, chroniques et invalidantes. Forcément, les Jeux paralympiques nous ont amenés à étudier un petit peu la couverture médiatique qu'on a apportée à ces Jeux, tant aux Jeux olympiques qu'aux Jeux paralympiques. Il y avait pas mal de parallèles à faire. Et c'est une analyse, un croisement de la presse qui est intéressant à poser aujourd'hui. Les Jeux paralympiques, historiquement, c'est la phase, la vague la plus connue des handisports, qui couvre vraiment une toute petite minorité de sports pratiqués, de corps représentés aussi, et invisibilise toute une série d'autres qui sont quand même largement plus représentatifs de la population en général.
bien pour ça qu'on est là ensemble. J'aimerais peut-être recentrer légèrement le débat en m'adressant à une athlète qui est à nos côtés et peut-être aussi te demander, Rosalia, eh bien, comment est-ce que vous vivez le regard et les questions des journalistes quand on vous fait parler de votre sport et de vos performances sportives?
Ça dépend du journaliste avec qui on tombe. Parce qu'il y a des journalistes qui se sentent presque agressés, ça fait ta. Et il y a des journalistes qui prennent leur temps à poser la question avant d'interviewer. Et voilà, le temps de réfléchir, quoi répondre. Et ce n'est pas du tout les performances qu'ils demandent.
C'est un petit peu révélateur.
En tout cas, moi, ça m'a quand même posé question le moment auquel ont lieu les Jeux Olympiques et les Paralympiques. Je veux dire, ils n'ont pas du coup la même visibilité. Je peux comprendre que vu qu'on est dans un système de compétition, on dise qu'il y ait des épreuves qui soient paralympiques et d'autres qui soient olympiques, mais pourquoi, encore une fois, on fait des ghettos? Et moi, personnellement, en tant qu'handicapé, je veux courir avec les plus forts. Il y a un truc, et après, d'accord, on est dans un système de compétition, mais je suis désolée, si on faisait courir les valides avec les yeux fermés, par exemple, je veux bien voir qui est le plus valide. Donc, en fait, pourquoi on n'imagine pas autre chose? Pourquoi on se dit pas, ah ben ok, mets-toi dans mes chaussures 2 secondes, saute avec les yeux fermés. En fait, on est encore et toujours dans, il y a les valides, et puis après, il y a les autres, et oh, c'est génial ce qu'ils font quand même, avec une jambe en moins, avec machin. C'est assez triste. Et le fait que ça soit séparé... Et la cérémonie d'ouverture, c'est un freak show. Moi, je suis dégoûtée, en fait. Je dis, mais on les voit jamais, puis d'un coup, on les voit tous. Qu'est-ce qui se passe, en fait? On fait pas partie du club. Il y a les normaux et pas les normaux. Et je pense que ceux qui s'intéressent aux Olympiques sont pas forcément ceux qui regardent les Paralympiques, et c'est ceux qui auraient besoin de les voir. Every day is so wonderful and suddenly it's hard to breathe. Now and then I get insecure from all the pain. I'm so ashamed. I am beautiful no matter what they say. Words can't bring me down. Beautiful.
Quand on interview une athlète ou un athlète, et les statistiques le montrent notamment dans les Jeux olympiques, on parle précisément de leur performance dans un cadre médiatique. Donc dans un cadre médiatique paralympique, il est attendu qu'on parle de leur performance également parce qu'on est dans le cadre d'un traitement médiatique, j'entends. Il y a quand même beaucoup de ce qu'on appelle des leçons de vie, des récits de vie qui sont voués à inspirer des personnes dites valides pour essayer bien de nous apprendre des choses, de faire en sorte qu'on puisse être inspiré et se sentir plus encouragé par les récits de vie. Et ça, c'est quand même un biais validiste de traitement médiatique dans le cadre des compétitions qu'il convient quand même de combattre, à mon humble avis. Mais de nouveau, je suis l'aude à la nuance incarnée.
Est-ce que ce serait pas mieux d'avoir une édition olympique regroupant paralympique et olympique? À ce stade, c'est pas ma réponse, c'est un peu la réponse du CIO, du comité paralympique, c'est de dire qu'en ayant deux événements séparés, ça donne plus de visibilité en fait aux jeux paralympiques. Les Jeux olympiques et les paralympiques ont ce trait commun que c'est une fois tous les 4 ans. Et donc, avoir une médaille, qu'elle soit olympique ou paralympique, c'est parfois la quête de 4 années d'efforts intenses, parfois c'est la quête d'une vie. Et donc, l'histoire, elle fait partie, en fait, du récit et de la couverture. Et là-dessus, la réflexion, elle est la même qu'on soit sur des JO ou sur des Jeux paralympiques.
Alors oui, ça mérite de parler. On dit, on voit, on parle d'inclusion. Mais moi, ce mot, je n'en peux plus, inclusion. Parce que ce mot inclusion, il est en opposition à exclusion. Donc ça veut dire qu'on sous-entend et que c'est normal que nous soyons exclus de la société. Et bien qu'on se pose les questions de pourquoi il y a de l'exclusion avant de parler d'inclusion. Et voilà, je crois que j'ai terminé.
Il faut être un héros pour exister. Après, je pense que c'est comme ça pour les normaux aussi, mais pour les handicapés, c'est encore pire. Et du coup, ils ont dit « Ah, Marie, sa passion du vélo, nanana ». C'est pas une passion, c'est un moyen de transport, c'est un moyen de locomotion. Et du coup, ça me dessert, en fait. Et donc ça, par exemple, médiatiquement, comment est-ce qu'on peut juste exister en étant banal, quoi? En fait, moi, j'ai juste envie d'être banal.
On nous demande toujours pour faire des programmes sur nous à cause de notre handicap, mais on nous invite jamais pour des quiz ou pour d'autres spectacles. Donc on est toujours là parce qu'on a besoin de quelqu'un avec nanisme, avec syndrome de Down ou quoi que ce soit. Mais quand on a besoin juste d'une personne, voilà, là on ne nous invite pas.
On a chacun son avis. Moi, ce qui m'a le plus gêné, c'est d'entendre à chaque fois répéter ce qu'on ne faisait pas pour les athlètes valides, le CV médical. Alors Michel Georges, on vous rappelle que Piotr von Montagu, on vous rappelle son histoire. Déjà, dans notre vie de tous les jours, on nous demande de justifier notre handicap par notre CV médical. Et moi, j'ai vu des archives d'athlètes, il y a des dizaines d'années, qui participaient aux Paralympiques et qui disaient déjà « arrêtez de nous parler de nos maladies » comme si on devait la justifier avant d'être interviewé. Non, en fait, il n'y a pas besoin. Pourquoi on le fait pour athlètes paralympiques et pourquoi c'était autant présent? Moi, ça m'a vraiment créé un sentiment de malaise en regardant les compétitions, en fait.
Quand on passe d'une audience et de personnes touchées de 1,2 million à 2 millions, il y a des gens qui ne la connaissent pas. Il y a des gens qui vont juste regarder cette compétition-là. Donc oui, on le fait. Si on le fait, c'est parce que ça a un intérêt pour qu'une partie du public comprenne ce qui se passe. Mais chacun son ressenti. Donc quand on donne un CV médical, on doit aussi... dans ces lives, un petit peu expliquer la catégorisation. Ça serait peut-être un bon sujet d'étude, de comparer 2012, 2016, 2021, 2024, de voir si on a évolué, est-ce qu'on le rappelle beaucoup moins qu'avant? Moi, je pense que oui, et c'est en tout cas notre volonté. Est-ce que dans les faits, on continue à trop le rappeler? C'est possible, et ça, c'est des questions qu'on doit se poser, et j'entends bien, en fait, parce que l'intention, c'est pas de le faire et de pas être insistant là-dessus. Ce n'est pas l'intention. L'intention, c'est de rester accessible pour un public qui découvre les Jeux paralympiques, parce qu'à chaque édition, il va y avoir encore, je l'espère, de plus en plus de public.
Je me dois de clôturer cette table ronde petit à petit. Merci à vous toutes et toutes pour vos interventions. Je crois qu'en deux mots, est-ce qu'on peut essayer de répondre à la question des opportunités et des limites du journalisme à l'égard des situations de handicap? J'aurais tendance à vouloir reprendre un petit peu l'aspect en termes d'opportunités que vous évoquez, Benoît, mais notamment financières, de se dire si ça peut drainer et essayer de
que ça, c'est prometteur en termes de couverture financière, de sponsoring, ça peut être vecteur de beaucoup de choses et ça peut déclencher des processus tant dans le sport de loisirs que de compétition. Je pense que c'est intéressant de repartir avec cette nuance-là aujourd'hui qui est quand même assez significative. Merci pour cet apport d'ailleurs. Dans les limites, je pointerai évidemment le manque de représentativité des jeux, on le sait, ça n'empêche pas, on n'a pas de solution magique là-dessus. Et on voit bien que la représentativité, eh bien, elle est aussi parfois au-delà du récit, spécifiquement sur la performance ou non. Il y a encore un champ des possibles à faire évoluer en matière de couverture médiatique sportive. Et les limites qu'on croise, eh bien, elles sont pour moi un petit peu de part et d'autre. C'est-à-dire que les médias évoluent, à quelle vitesse ? Puis les athlètes et les corps intermédiaires, les associations, les collectifs, la société évolue aussi. Et peut-être qu'on n'est pas toujours à la même vitesse d'évolution. Et ça fait un petit peu ces petits grincements et cette petite ode à la nuance que j'espère avoir pu alimenter avec succès avec vous aujourd'hui. Merci à toutes et à tous.
Mediafun ! Vous retrouverez toutes nos émissions en podcast sur la plateforme mixcloud.com/media-animation. Si vous souhaitez participer à la réalisation d'une émission, n'hésitez pas à nous contacter par email à mediafun@media-animation.be.